Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, le débat, Israël et la Palestine, doivent-ils former un ou deux États? Nous retrouvons nos invités, Dominique Vidal, journaliste et historien spécialiste des questions internationales et du Proche-Orient en particulier, et Julien Salingue, enseignant en sciences politiques et doctorant à l'Université Paris 8. Deux États, un État, le statu quo va prévaloir dans un premier temps. Depuis que le débat a été lancé, la situation a évolué, Dominique Vidal. Quelles sont les dimensions de ce débat?
Vous avez l'idée d'un seul État. Pour simplifier, disons, binationale, elle a trois énormes avantages. Premièrement, du point de vue de l'idéal. Personne, après ce qui s'est passé en ex-Yougoslavie, en Afrique centrale, dans la décomposition de l'Union soviétique, ne peut rêver d'État ethnique ou ethnico-religieux aujourd'hui. Donc, du point de vue de l'idéal, c'est évident que l'idée d'un État binational est plus conforme à ce que nous pouvons espérer aujourd'hui. Deuxièmement, c'est pas du tout une idée fumeuse. Elle a été le propre d'une grande partie de la communauté juive de Palestine. Au début du XXe siècle, jusqu'en 1947, il y avait jusqu'à 40% des gens qui étaient favorables à un État judéo-arabe. Et du côté palestinien, jusqu'à ce que l'OLP prenne le tournant, en 1974, avec la venue d'Arafat à l'ONU, de la perspective de deux États, ils étaient aussi pour une Palestine laïque et démocratique. Troisièmement, c'est évident que sur le terrain, l'enchevêtrement, non seulement des populations, puisqu'il y a des 1,5 million Arabes en Israël, et il y a 500 000 colons juifs en Cisjordanie, mais aussi des économies, et oui. Ça Julien le dira mieux que moi, ça pose la question, est-ce qu'on peut encore faire vraiment deux États? Ça, c'est, disons, les grands arguments favorables à l'idée d'un État. Mais il y a des inconvénients. D'abord, la majorité écrasante des Israéliens, moins écrasante, mais quand même nette des Palestiniens, ne souhaite pas un seul État. On peut pas leur imposer, ce serait mal commencer une solution démocratique que de l'imposer
par la force à la population.
Deuxièmement, quel rapport de force va permettre d'imposer une solution comme celle-là qui, du point de vue sioniste, est inacceptable? Un deuxième État, un État palestinien aux côtés d'Israël, ça ne remet pas en cause complètement le projet d'État juif. Mais un seul État, c'est la fin de ce que Herzl avait rêvé, ou en tout cas l'interprétation que le mouvement sioniste en a faite, et des décennies de batailles autour de ça. Et troisièmement, si les rapports de force sont pas suffisants, alors le risque n'est-il pas qu'un seul État soit l'État d'aujourd'hui, c'est-à-dire le grand Israël d'apartheid, où les uns ont des droits et les autres n'en ont pas. Donc c'est une vraie question. À quoi j'ajoute un quatrième obstacle? L'opinion internationale qu'il a fallu quand même quelques dizaines d'années pour convaincre que les Palestiniens avaient droit à l'autodétermination et qui aujourd'hui, on le voit à l'UNESCO, est favorable, y compris à travers les gouvernements, à la création d'un État palestinien. Si on lui dit, écoutez, on s'est trompé, on ne veut plus un État palestinien à côté d'Israël, on veut un seul État, le risque est quand même important qu'ils ne suivent pas, qu'ils disent, écoutez, si c'est un problème interne, alors ça ne concerne plus l'ONU, ça concerne les Israéliens et les Palestiniens, débrouillez-vous. Donc si vous voulez, on est dans un ensemble d'avantages et d'inconvénients qu'il faut bien peser, et c'est au fond ce que fait le livre en allant dans le détail de chaque élément. Mais c'est sûr qu'une des questions les plus préoccupantes, et c'est celle que traite Julien Salingue dans le livre, c'est l'enchevêtrement des économies et le fait qu'on a une économie palestinienne tellement dépendante de l'économie israélienne, que on voit mal comment elle pourrait devenir une économie indépendante d'un État indépendant aux côtés d'Israël.
Donc sur le plan économique, c'est déjà tard, Julien Salingue?
Le point de départ, moi, de ma réflexion aussi, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui, pour moi, est essentiel, c'est la question des bases matérielles de l'État palestinien. C'est-à-dire qu'avec la colonisation, avec la politique israélienne d'annexion, en réalité, des ressources naturelles de la Cisjordanie, de construction d'un réseau routier qui relie Israël aux colonies qui sont dans la vallée du Jourdain, etc., les bases matérielles de l'État palestinien, en réalité, ont disparu. C'est-à-dire qu'on n'a plus que quelques petites zones, quelques petits bantoustans vaguement palestiniens, qui sont au milieu d'un immense ensemble, qui s'appelle l'État d'Israël, en réalité, où c'est le même réseau routier, l'électricité, l'eau, etc. Tout est unifié, en réalité. Et penser dans ce cadre-là la séparation, c'est s'attaquer à beaucoup plus que ce que ne laissent entendre ceux qui disent que la solution à deux États, c'est quelque chose de pragmatique, modéré et acceptable pour l'État d'Israël. Et du coup, effectivement, au niveau de l'économie, c'est particulièrement manifeste, cette annexion de facto de la Cisjordanie. C'est que l'État d'Israël, à partir de 1967, a occupé la Cisjordanie et la bande de Gaza, et à partir de là, a conduit une politique spécifique et assez originale dans l'histoire du colonialisme vis-à-vis de la Cisjordanie. Il s'est agi en réalité d'accaparer les ressources de la Cisjordanie, de reconfigurer en partie l'économie palestinienne en fonction des besoins de l'économie israélienne.
Alors, quelques exemples concernant l'économie palestinienne?
En les contraignant, par exemple, à produire un certain nombre de marchandises à faible valeur ajoutée, du textile, des chaussures, des choses comme ça. Mais par contre, en leur interdisant de produire quelques marchandises que ce soit à haute valeur ajoutée qui pourraient concurrencer l'économie israélienne.
Un exemple?
Aujourd'hui encore, dans les territoires palestiniens, on ne fabrique pas de puces électroniques, de téléphones portables, de télévisions.
Alors que les capacités sont là, on est bien d'accord.
Alors que le savoir-faire, les technologies, tout est là, sauf qu'en réalité, a été imposé à l'économie palestinienne un mal-développement, un dé-développement, c'est un terme qui est employé par certains économistes, c'est-à-dire qu'on a une économie très curieuse où des secteurs entiers de la production sont absents, parce que l'État d'Israël a refusé que ces secteurs se développent. Mais je disais original, c'est qu'en même temps, on a pas le phénomène qu'on avait par exemple en Afrique du Sud, d'exploitation directe de la main-d'œuvre palestinienne pour dégager une plus-value importante pour l'économie israélienne. C'est-à-dire que globalement, la main-d'œuvre palestinienne représente assez peu de la main-d'œuvre qui est employée dans les entreprises israéliennes. Donc on a un phénomène bizarre de séparation par rapport à la population, mais par contre d'intégration des ressources de la Cisjordanie et d'utilisation indirecte de l'économie palestinienne pour les intérêts de l'économie israélienne, parce que je rappelle juste, pour finir, deux chiffres importants, c'est qu'aujourd'hui, on a à peu près 90% des marchandises vendues dans les territoires palestiniens qui viennent d'Israël. 90% des produits que vous trouvez dans les supermarchés palestiniens viennent d'Israël, parce que c'est un marché captif pour l'économie israélienne qui permet d'écouler une bonne partie de sa production à une population qui n'a pas les moyens de produire elle-même ce dont elle aurait besoin.
Dominique Vidal.
Oui, je voudrais évoquer deux autres articles qui vont dans le sens de ce que dit Julien, qui sont dans le livre, le chapitre de Leïla Farsak, qui est une comparaison entre la situation de l'Afrique du Sud et la situation de la colonisation des territoires occupés.
Sur le plan de la structure d'apartheid.
Voilà, où elle dit, attention, le mot d'apartheid a un sens, il faut bien le fouiller, mais on n'est pas dans la même situation, puisque le capitalisme israélien n'exploite quasiment plus la main-d'œuvre palestinienne, sauf dans les colonies. Mais en Israël, on a plus ces 100 000 ou 150 ou 200 000 ou 300 000 travailleurs palestiniens qui venaient travailler et qu'on exploitait. On les a remplacés par des ouvriers africains, thaïs, chinois. Enfin, on est dans un autre jeu. Deuxièmement, l'article très important aussi de Gadi Al-Ghazi qui montre que, contrairement au vieux capitalisme colonial, qui explique largement la défaite, d'ailleurs, du colonialisme français, par exemple, dans les années 50-60, c'est un capitalisme israélien ultra-moderne et ultra-flexible, qui donc est un capitalisme, par exemple, fondé sur le high-tech. Et le high-tech, comme par hasard, venu de l'armée. Ce sont des anciens officiers israéliens qui ont créé toute l'industrie du high-tech israélien, qui est aujourd'hui une des principales industries au monde. Et qui on exploite pour faire du high-tech? Pas les Palestiniens. La main-d'œuvre des colons de Cisjordanie, qui est une main-d'œuvre exploitable et corvéable à merci, parce que c'est une main-d'œuvre ultra-orthodoxe, et donc qui, pour des raisons idéologiques et religieuses, est particulièrement docile. Et on a réussi à transformer de pauvres Israéliens, ou plutôt des Israéliens pauvres, venus des pays orientaux, des pays d'Asie ou d'Afrique, en colons, mais en colons qu'on exploite. Donc, si vous voulez, on n'est pas dans une situation coloniale classique. On a des spécificités qui font quand même que ce capitalisme a réussi, tout en maintenant une guerre de basse intensité, mais une guerre quand même contre les Palestiniens, à avoir une croissance depuis des années, y compris pendant la seconde intifada, de 4, 5, 6% par an. Donc, c'est une situation très particulière dont il faut tenir compte dans le débat
autour d'un État ou deux États.
Alors, il y a un autre chapitre de l'ouvrage de Dominique Vidal qui lui est consacré à la question démographique et sur laquelle j'aimerais qu'on s'arrête quelques instants. La bataille démographique est un élément assez central de la politique des Israéliens et celle des Palestiniens depuis 1948. Les leaders israéliens de tout temps étaient angoissés quant à la dominance démographique palestinienne. Et Youssef Courbage, chercheur à l'Institut National d'Études Démographiques, l'INED, démontre lui qu'il existe actuellement une inversion des tendances de la transition démographique avec une accélération de la baisse de la fécondité chez les Palestiniens alors que chez les Israéliens, elle se renforce sans cesse. Youssef Courbage ne pouvait pas être avec nous en studio, je l'ai interviewé la semaine dernière.
Il fut un temps où on considérait que la bombe démographique était palestinienne. C'était l'époque où les Palestiniens, bien qu'ayant atteint des sommets pour ce qui est de l'alphabétisation et de l'éducation aussi bien des garçons que des filles d'ailleurs, continuaient à faire beaucoup d'enfants. On appelait ça la revanche des berceaux ou la bombe démographique palestinienne ou la bataille par les nombres. L'idée était simple, c'est que les Palestiniens se sentant occupés et ne voulant pas être dégommés de leur terre, un des moyens les plus primitifs mais les plus efficaces, c'était de faire beaucoup d'enfants, avec l'idée sous-jacente que s'ils devenaient 4, 5, 6, 7 millions sur la terre, ils pouvaient beaucoup moins être menacés par le transfert tel qu'il était arrivé en 1948 au moment de l'exode de 750 000 Palestiniens après la défaite arabe de 1948, mais aussi en 1967, après la guerre des six jours, où 250 000 Palestiniens avaient été contraints de déserter leur foyer. Donc, le nombre fait la force, si vous voulez. Cette idée a animé consciemment ou inconsciemment les Palestiniens, à telle enseigne que Yasser Arafat déclamait que tout couple palestinien devait avoir 12 enfants, vous entendez bien, 12 enfants, 2 pour sa famille et 10 pour la cause palestinienne. C'est-à-dire qu'il fallait que 10 enfants se sacrifient pour la cause palestinienne.
Donc Youssef Courbage, dans le livre, vous apportez un éclairage nouveau par rapport à ce rapport de force démographique. Où est-ce qu'il en est au jour d'aujourd'hui, ce rapport de force, et quelle est sa perspective ?
Il se fait qu'à partir de 2000, de la deuxième intifada, il y a eu un renversement copernicien des tendances démographiques, à telle enseigne que les Palestiniens, qui faisaient beaucoup d'enfants, ont commencé à freiner leur natalité exorbitante, et ceci partout, aussi bien chez les Arabes israéliens que chez les Palestiniens des territoires occupés, c'est-à-dire en Cisjordanie, à Gaza et à Jérusalem, que dans la diaspora. Mais ce qui est intéressant, c'est que même Gaza, qui était très rebelle, s'est alignée et que la natalité des hommes et des femmes y a beaucoup diminué. En revanche, la fécondité des Juifs israéliens, elle, et s'est mise à augmenter à telle enseigne qu'aujourd'hui un juif israélien fait en moyenne 3 enfants par femme. C'est 2 fois la moyenne européenne pour une population qui a un niveau de vie de type occidental, tout à fait comparable à celui de pays comme la France, la Belgique, l'Italie, l'Allemagne.
Youssef Courbage, à cette question de la démographie juive, il y a aussi l'immigration.
Il y a l'immigration. En fait, on parle beaucoup plus de l'immigration que de la natalité. Mais la natalité est une arme beaucoup plus efficace à long terme que l'immigration. Pourquoi ? Parce que les adultes font des enfants, les enfants font des petits-enfants. Et vous avez, avec ce phénomène de reproduction des générations, une croissance qui peut être exponentielle de la population. Tandis que l'immigration, elle dépend de votre réservoir. Or, le réservoir des Juifs de l'immigration est relativement limité. On voit difficilement les 5 millions de Juifs américains s'installer en Israël. On voit difficilement aussi les 600 000 Juifs français attirés par la terre promise, ce qui fait que les rares juifs qui seraient encore tentés d'émigrer en Israël sont les restes des communautés juives de l'ex-Union soviétique, de l'Europe de l'Est, quelques juifs perdus en Asie, mais ceci ne représente qu'un filet très mince pour alimenter la croissance démographique juive en Israël. Donc, il reste la ressource de la natalité, et la natalité juive est, en termes européens, exubérante.
Alors, Youssef Courbage, très rapidement pour conclure, cette évolution dans le rapport de force démographique devrait quelque part détendre un petit peu la politique israélienne ?
Non, pas du tout, au contraire. Parce que si on regarde à la loupe, les réalités sont différentes. Vous avez une démographie juive élevée en deçà de la ligne verte, c'est-à-dire dans le territoire israélien de 1948 à 1967, où la natalité juive est certes très forte, mais elle est quand même relativement raisonnable. Et vous avez une vraie guerre démographique par enfant interposé qui se déroule en Cisjordanie entre les colons israéliens et la population autochtone palestinienne. Aujourd'hui, la fécondité des juifs des colonies de peuplement atteint des sommets. Elle atteint le niveau de l'Afrique subsaharienne, plus de 5 enfants par femme. C'est le cas des colonies de Cisjordanie telles que Ariel, tels que Gush Etzion, tels que Mahale Adumim. Et c'est aussi le cas des colonies qui ont été plantées autour de Jérusalem-Est après la défaite de 67 des Palestiniens. Et là, la natalité est exubérante, elle dépasse celle des Palestiniens. Et c'est en fait là que le bât blesse, que le problème est le plus aigu. Parce que les enfants des colons nés dans les colonies vont se sentir de plus en plus fils de cette terre et se dire qu'eux sont indégobables, qu'ils sont là pour l'éternité. Ce qui n'était peut-être pas le cas de leurs parents. Donc il y a chez les enfants des colons l'attitude de quelqu'un qui a tous les droits à être implanté dans le territoire cisjordanien.
Voilà, c'était la participation de Youssef Courbage, chercheur à l'Institut National d'Études Démographiques, l'INED, qui ne pouvait pas être présent en studio. Un commentaire, l'un et l'autre, Dominique Vidal et Julien Salingue, et une conclusion.
Écoutez, Dominique Vidal. J'insiste sur le fait que son chapitre est absolument passionnant, et il y a des projections démographiques précises qui portent sur toute la période 1948-2048, qui tuent une idée sur laquelle tout le monde a vécu depuis longtemps. Il n'y aura pas de majorité palestinienne écrasante, il y aura une majorité dans la Grande Palestine, mais pas écrasante, et il n'y aura pas de majorité palestinienne en Israël. Donc il faut en finir avec ce fantasme, agité par les uns comme le péril démographique, mais utilisé par les autres comme un fantasme, la guerre des berceaux, etc. C'est donc un élément très important dans le débat sur un État ou deux États. Il y a quand même un bémol, c'est le million missing, c'est-à-dire que sur les 7 millions d'Israéliens comptabilisés aujourd'hui par l'État d'Israël, il y en a 1 million dont on ne sait pas très bien où ils sont. Alors, est-ce qu'ils sont à l'étranger durablement ou est-ce qu'ils y sont simplement de passage? C'est un vrai point d'interrogation. Ce que je constate, c'est que depuis plusieurs années, il y a à peine plus d'immigrants en Israël que d'émigrants d'Israël, j'entends de juifs. Donc ça, c'est quand même un bémol, mais globalement, Youssef Courbage appelle les dirigeants palestiniens avec ses travaux à revenir à la raison. Ça n'est pas dans l'arme démographique qu'ils trouveront la solution à leurs problèmes.
Julien Salingue, très rapidement.
Effectivement, c'est important d'avoir ces chiffres-là en tête, mais je voudrais rajouter un autre élément qu'il faut avoir en tête, y compris sur les questions démographiques. C'est tout simplement les réfugiés palestiniens qui vivent à l'extérieur des territoires, qui sont la majorité du peuple palestinien. On ne peut pas faire abstraction d'eux non plus. Quand on pense à une quelconque solution à moyen ou à long terme pour résoudre la question nationale palestinienne, il faut aussi tenir compte de segments de la population qui, dans le cadre d'une solution à deux États, qui serait une solution définitive, resteraient des réfugiés. Donc il faut ne jamais oublier cette composante de la population palestinienne, sinon on risque de nouveau de proposer des solutions entre guillemets qui n'auront aucune validité sur le moyen et le long terme.
Un débat qui n'est pas terminé. En tout cas, c'est la fin de Géopolitique, le débat. Merci à nos invités, Dominique Vidal, journaliste et historien spécialiste des questions internationales et du Proche-Orient en particulier, et Julien Salingue, enseignant en sciences politiques et doctorant à l'Université Paris 8. Je rappelle donc le titre de votre ouvrage collectif, Palestine-Israël, Un État, deux États, qui vient de paraître aux éditions Sinbad. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr. Également d'autres analyses de géopolitique sur diploweb.com. Géopolitique était signé Marie-France Chatin. Merci à la documentation de RFI, à Nathalie Laporte pour la réalisation et la technique. Demain, Géopolitique sera consacré à la notion de puissance dans le monde dans ce début de 21e siècle. Un sujet finalement pas si éloigné de notre propos d'aujourd'hui. À demain.